Avec le recul, et c'est là que là, je pense que la maturité, du coup, elle a quand même pris encore un autre niveau depuis cet âge-là. Je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas un coup de tête, mais il y avait quand même beaucoup d'impulsivité dans la décision.
Parce que demain, tu peux avoir une épreuve qui te met par terre, qui te change complètement. Et ça, tu peux pas l'anticiper, en fait. En revanche, Allah, il sait. Allah, il sait ce qui va t'arriver. Donc, en fait, il sait qui sera la personne qui pourra t'accompagner, Birinilet, dans toutes les phases de ta vie.
Certes, c'est dur parce que une séparation, c'est jamais joyeux. Mais au moment où tu dis que c'est fait et où tu reviens plus en arrière, t'es sûr de toi, Allah, il t'apaise vraiment. Il y avait ma vie maritale à gauche et Allah à droite. Et les deux, en fait, n'étaient plus dans la même direction pour moi. Je pense que c'est ça, en fait, le choix, en fait. C'est quand tu te maries avec quelqu'un, tu dis, est-ce que cette personne, elle sera là pour me rappeler de toujours faire le meilleur pour Allah?
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. C'est un secret pour personne désormais. Je me suis mariée à un âge que l'on peut dire avancé. Je ne suis donc pas la mieux placée pour vous expliquer ce qu'il se passe lorsque l'on découvre la réalité du mariage à un jeune âge. Mon invitée, elle, le sait, car elle l'a vécu deux fois. De sa première union qui s'est soldée par une séparation, Laura en a tiré un grand nombre de leçons qu'elle nous partage avec hauteur et profondeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme toute épreuve, cette expérience a apporté son lot de bonheur aussi, puisqu'elle a abouti à sa rencontre, puis son mariage, avec son actuel mari. Durant notre conversation, Laura et moi avons abordé des sujets qui nous ont réellement fait méditer, mais surtout avancer. Parmi ceux qui m'ont le plus touchée, vous trouverez les défis à relever pour une jeune génération sursollicitée, quotidiennement tentée, mais qui, elle aussi, aspire à se marier et à le rester. L'importance de bien s'entourer pour faire des choix éclairés. Et enfin, la nécessité d'inclure Allah dans ses choix pour espérer rester dans la bonne voie. Sans plus tarder, je vous laisse profiter d'une conversation pleine d'enthousiasme, de bonnes énergies, mais de belles réflexions aussi. Et vous souhaite, Inch'Allah, une merveilleuse écoute. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, Laura, comment tu vas?
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu, ça va très bien, alhamdoulilah, et toi?
Je vais bien, je vais super bien.
Ça fait plaisir.
Je suis très contente, ouais, vraiment, ça fait très plaisir de te parler de bon matin. On n'en dira pas plus aux gens, mais c'est vrai qu'il est assez tôt. Mashallah. Et Laura, je suis très contente de t'inviter sur le Halal Love Podcast parce que c'est la première fois que j'ai une personne qui est aussi jeune. Alors, tu es dans ta fin de vingtaine, entre guillemets, mais tu vois ton histoire avec le mariage. Bah, c'est vrai, on va se dire les choses. Ton histoire avec le mariage, elle a commencé assez tôt. Et je trouve que c'est important d'avoir tous les profils, en fait, au sein de cette émission, parce que le mariage, ça ne concerne pas que les personnes qui sont dans leur trentaine et plus, ça concerne tout le monde. Et d'ailleurs, c'est des grands sujets qu'on a en ce moment avec des proches autour de moi, c'est à quel point on devrait parler du mariage très très tôt pour pouvoir faire entrer nos frères et sœurs dans le mariage de plus en plus jeunes, parce que c'est ce à quoi Allah nous enjoint.
C'est ça.
Laura?
Oui.
Ma première question, justement, c'est par rapport à ton âge, parce qu'en fait, tu t'es convertie jeune, tu es une convertie,
oui.
Tu es convertie jeune, tu t'es mariée une première fois jeune. Qu'est-ce qui se passe, Laura? T'es pressée? Est-ce que tu peux nous dire, en fait? Bon, on voit ça. Mais justement, est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de ta conversion? Et j'ai l'impression qu'en fait, tu as été très mature très tôt. Je me trompe?
Je me suis convertie, j'avais l'âge de 21 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça remonte. Ça remonte à. Parce que là, du coup, je vais avoir 28 ans cet été. Inch'Allah. Et en fait, pour moi, ça s'est pas fait tôt ou tard, en fait, ça s'est fait au moment où ça devait se faire. Parce que via les fréquentations que j'avais déjà au collège et un peu plus vers le lycée, du coup, c'est des questions, tout un cheminement qui s'est fait naturellement, en fait, sans que je le cherche ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, ça s'est fait au moment où ça se devait se faire. En fait, j'étais dans un moment de ma vie où j'avais déjà commencé à travailler. Et je me suis dit, en fait, là, je me dirige vers quelque chose qui ne me correspond pas, en fait. Donc, du coup, j'ai pris le temps de me poser des questions, de regarder un petit peu ce sur quoi je voulais avancer, ce sur quoi j'allais. J'ai rectifié un peu le tir et puis bah, j'en suis là aujourd'hui, alhamdoulilah.
Mashallah. Et est-ce que tu dirais que le fait de te convertir à cet âge-là, c'est ça qui a accéléré ton envie de te marier jeune, ou est-ce que ça a toujours été dans ton ambition finalement de te marier, d'avoir des enfants relativement jeunes?
Alors moi déjà quand j'ai, je sais pas si j'étais en primaire ou au collège, mais dans ma tête j'avais mon plan de vie qui était déjà tout fixé, genre à 21 ans je me mariais, et à partir de 22-23 ans j'avais déjà des enfants.
Ok. Est-ce qu'on est loin du plan ou pas, Laura?
Alors les enfants pour l'instant il y a toujours pas, mais le mariage du coup bah, ça s'est fait assez tôt quand même. Bon, peut-être pas comme prévu du coup, parce que je me suis rendu compte que la vie c'était pas aussi facile que ça. Il suffisait pas de se
Bien
marier,
sûr.
hop, à 18 ans tu crois que tu vas partir chez toi parce que t'en as marre de chez tes parents, mais tu te rends compte qu'il faut que tu payes des choses de toi-même et c'est pas la vie d'Aloca quoi. Mais ouais, non, ça va, franchement, je me suis pas trop perdue dans mes plans, ça va.
Alhamdoulilah. Et justement, tu as commencé un peu à aborder la question, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, tu t'es mariée deux fois, Laura,
Oui.
et j'aimerais bien qu'on prenne le temps de revenir sur ces deux unions, parce que j'imagine que de fait, la première union a impacté sur la deuxième, dans le choix du partenaire, dans la vision du mariage, etc. Donc justement, tu disais que tu n'étais pas tombée trop loin au niveau des estimations par rapport à ta première union. Tu t'es mariée à quel âge
C'était
pour la
en
première fois?
2018, du coup, j'avais 22 ans. C'était un mois avant mes 23 ans, ouais.
Ok.
Donc, du coup, j'avais
Et
visé 21, 22, c'était pas trop loin, ouais.
ouais, c'est vrai, on est d'accord. J'aimerais juste ton. C'est pas que je veuille faire une. Je veux rester butée sur la question de l'âge, mais est-ce que tu penses que l'âge de ton premier mari et l'âge que tu avais quand tu t'es mariée a eu un impact dans la qualité de votre union? Parce que tu me disais que vous aviez peu ou prou à quelques mois après le même âge, ton mari et toi, quand vous vous êtes engagés.
Bah, en vrai, en y réfléchissant bien, je me demande, enfin, peut-être que l'âge joue, mais au final, je pense que c'est plus une question de maturité, à proprement dit, que l'âge. Bon, les deux peuvent être liés, bien souvent. Mais, ouais, non, je pense que c'est plus une question de maturité et de choix de vie, en fait, parce que je pense que, apparemment, ça se passe déjà à la vingtaine, et même à 30 ans ou 40 ans, on peut avoir des déclics dans nos vies qui te font dire, en fait, la vie, là, j'en ai plus envie, je veux faire totalement l'opposé. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait. Donc, mais je suis pas sûre que l'âge en soi, ça soit vraiment le problème.
C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait, tu vois, dès le départ, tu dis ceci, l'âge et la maturité. Et c'est super, parce que j'ai l'impression, mais Allahu A'lam, que en fait, Allah, il nous enjoint à nous marier jeunes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas être mature, en fait. C'est-à-dire que on se doit quand même d'avoir une maturité toujours émotionnelle et spirituelle pour se marier. Et la maturité, elle peut venir finalement très tôt, dès lors où on la travaille, en fait. Et c'est ce que tu dis quelque
Bah, je pense
part.
qu'après, c'est un choix de vie. Je vais pas dire que, ah, demain, tu te dis, ouais, je vais être mature, bah, tu le seras. Mais je pense que, ouais, c'est un cheminement qui peut se provoquer assez tôt. Dans le sens où, je sais pas si ça peut faire partie de la maturité ou non, mais moi, ça m'a jamais intéressé de sortir, d'enchaîner les conquêtes ou quoi que ce soit, ou de passer mes nuits en boîte, ou à sortir dans des endroits, faire la fête, profiter de ma jeunesse, comme on dit. Moi, j'ai pas eu l'impression de passer à côté de ma jeunesse sans faire tout ça, en fait. Je pense que ça, chacun a ses ambitions, chacun a ses. Moi, je le disais, j'ai pas le temps. J'ai pas envie de perdre mon temps bêtement dans des trucs où je sais que ça m'apporte rien. Ni physiquement, ni moralement, ni pour l'avenir. Si je sais que c'est une perte de temps, bah j'y vais pas en fait. Donc du coup, bah ça m'évite de m'éparpiller, je pense, et ça aide.
Ouais, bien sûr. Est-ce que tu penses que du coup, tu as fait preuve de cette même maturité quand tu as choisi ton premier mari? C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que tu l'as choisi selon les bons critères, ou est-ce que tu penses que tu avais des critères, bah, en fait, finalement, de jeune fille dans ta vingtaine? Est-ce que tu penses aussi que tes critères étaient synchronisés sur des choses un peu plus bah, de la vie contemporaine, à savoir les, je sais pas, peut-être les séries que tu pouvais consommer, ou les histoires d'amour que tu voyais autour de toi, ou peut-être ton modèle parental, je sais pas.
Avec le recul, et c'est là que là, je pense que la maturité, du coup, elle a quand même pris encore un autre niveau depuis, bah, depuis cet âge-là. je me suis rendu compte que en fait c'était pas un coup de tête, mais il y avait quand même beaucoup d'impulsivité dans la décision. Et je me dis, en fait, j'ai pas forcément
C'est-à-dire.
réfléchi sur bah, avec le recul, en fait, parce que sur le moment, je pense que j'avais réfléchi, mais j'avais peut-être pas vraiment creusé suffisamment sur des questions fondamentales, et peut-être que bah, c'est peut-être une réflexion qu'on n'a pas eue à deux, en fait. Enfin, suffisamment, en tout cas.
Donc, ni lui ni toi, finalement, tu penses que vous avez vraiment creusé des questions fondamentales? Et c'est quoi les questions fondamentales, du coup,
Bah,
tu
avec le
vois,
recul,
sur
du coup,
lesquelles tu
ouais,
t'es
je
dit,
me
ah,
dis
mais
que
ça,
non.
j'aurais dû vérifier, en fait. Ok.
Parce que, bah, en fait, je sais pas, je saurais pas te dire sur le moment où on s'est pas dit, ah, on se marie et hop, ça y est, on n'en parle plus et tout, mais. Parce qu'au début, tout se passe toujours bien. En théorie, tout se passe
Souvent.
toujours bien, mais après, ouais, je sais pas. Je saurais pas te dire, je pense que, ouais, on a été un petit peu. Ah, pour éviter. En fait, c'est plus pour éviter les relations hors mariage. Mais en fait, ça engendre pas que ça, en fait. Ce que je te disais tout à l'heure, au final, c'est pas juste un couple dans le licite, c'est. C'est les questions derrière, c'est le mode de vie, c'est comment dire, la cohésion entre le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Chacun a ses droits, pardon, et chacun a ses devoirs. Et ça, faut bien le prendre en compte, parce que bah, si tu négliges ça d'un côté comme de l'autre ou des deux, bah, ça peut vite devenir problématique pour. Ça peut être momentané, mais ça peut prendre des grosses répercussions sur le long terme, quoi. Ça peut être problématique.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et avec le recul, selon toi, mais ça c'est encore une fois, c'est très subjectif, on n'attend pas une réponse de Moufti, mais avec ton expérience, avec ton recul, comment tu peux te marier jeune en te mariant bien? En justement en te disant pas, mince, 5 ans plus tard, je réalise que j'ai manqué de patience, ou mince, 5 ans plus tard, je réalise que j'ai pas posé les bonnes questions. Pour les gens qui nous écoutent et qui veulent vraiment se marier jeune, tu vois, c'est quoi comment tu peux combiner encore une fois ton jeune âge, la maturité que tu as sur le moment et l'envie de bien faire et de satisfaire notre Créateur?
Bah déjà se renseigner sur ce qu'engendre le mariage. C'est pas juste être en couple et ça y est, on est tranquille. C'est vraiment se poser des questions, déjà avoir conscience de ce qu'on doit faire pour soi, enfin par rapport à soi et par rapport à l'autre dans les contextes de la religion. Du coup, c'est avoir conscience aussi. En fait, je pense que c'est l'entourage qui peut vraiment t'indiquer, mais l'entourage qui est marié religieusement, tu vois, qui peut te dire ouais bah fais gaffe parce que bah, le mariage des fois il y a des événements qui seront des épreuves et qui vont mettre un petit coup. Et si vous n'êtes pas soudés, bah, ça risque d'éclater. Mais si vous êtes soudés, ça va vous rapprocher. Plein d'épreuves comme ça. Il y a des. Ouais, il faut savoir dans quoi tu te lances en fait. Même si on sait jamais vraiment d'avance. Mais faut avoir une
Ouais.
image assez globale de ce dans quoi tu t'aventures.
Ouais, donc de pas hésiter quand tu es dans ta vingtaine et que tu veux te marier, même si c'est hyper difficile, et franchement, bah on a eu 20 ans, donc on sait ce que c'est, mais garder l'œil et les oreilles bien ouvertes et être ouvert à la discussion, parce que c'est vrai que quand tu rencontres quelqu'un dans ta vingtaine, tu souffres pas le non, hein. C'est un peu non, mais c'est avec lui que je veux marier, ou non, mais c'est avec elle. Et toi, on te dit non, mais est-ce que tu as vérifié ça? Non, mais ça va marcher, ça va
T'inquiète, je
marcher.
sais.
T'inquiète pas, nous, on ne sera pas concernés. Voilà, le fameux t'inquiète. Et peut-être, ouais, se dire que c'est super dur d'aller à l'encontre de ça parce que c'est quelque part, c'est presque propre à la vingtaine. Moi, je trouve en tout cas que c'est une décennie où tu as l'impression que tu te connais très bien, où tu as l'impression que tu connais beaucoup de choses et que comme tu es sorti de l'adolescence, ça y est, tu es déjà dans l'âge adulte. Alors qu'en fait, ouais, d'un point de vue maturité, je reviens à ton terme, t'es pas arrivé encore. Et peut-être, voilà, se dire que quand tu es dans ta vingtaine, rappeler aux personnes de 20 ans, sans condescendance
J'entends
aucune,
plus.
sans leur dire vous n'êtes pas si mature que vous le pensez, mais de se dire vraiment garder l'œil ouvert, entourez-vous de gens qui sont mariés, et puis surtout, ben, demandez conseil auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, parce que ça, je trouve que ça fait les meilleures décisions quand même. Moi, je trouve en tout cas que quand on te remet Allah au centre de nos décisions et qu'on lui demande son avis, son agrément, le résultat n'est pas le même. Rajouter, c'est qu'il faut aussi essayer de mettre Allah Subhanahu wa Ta'ala au centre de sa décision, dans le sens où en fait, il n'y a que lui en fait, qui sait vraiment
C'est ça.
ce qui est bon pour toi. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, pour le coup, quel que soit l'âge que tu as, quel que soit. Comment dire, quel que soit l'âge que tu as, quel que soit le degré de connaissance que tu as du frère ou de la sœur, finalement, c'est lui qui va te dire si tu peux y aller ou pas, en fait. C'est lui qui c'est lui qui a vraiment le dernier mot et qui saura vraiment bien te conseiller. Parce qu'en vrai, nous, on ne sait jamais. Tu auras beau te marier à 45 ans avec quelqu'un que tu connais depuis 5 ans, si ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas.
Et même sans ça, toi-même, tu te connais pas à 100%. Donc comment
Exactement
tu peux
pas.
vouloir penser connaître l'autre à 100% si toi-même, en une année, tu peux te découvrir toi-même?
Tellement, tellement, tellement,
Donc,
tellement. Et
à
enfin,
partir de ce
ouais, c'est vrai.
moment-là...
Oui, c'est vrai. Et en fait, moi, je me disais aussi, en fait, quand tu veux te marier, toi, tu as une toute petite visibilité. C'est-à-dire que tu sais qui tu es, mais dans les prochaines années à venir, tu vois. Parce que demain,
D'accord.
tu peux avoir une épreuve qui te met par terre, qui te change complètement. Et ça, tu peux pas l'anticiper, en fait. En revanche, Allah, il sait. Allah, il sait ce qui va t'arriver. Donc, en fait, il sait qui sera la personne qui pourra t'accompagner, bien il est, dans toutes les phases de ta vie. Et dans
C'est
toutes les
ça.
phases, et qui tu es pour bien accompagner aussi la personne selon toutes les phases de sa vie à lui. Parce que ça, nous, on est incapable de le savoir. Ça, honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour se le dire et pour le comprendre. On a une piètre visibilité en fait sur notre avenir. C'est Allah qui a vraiment la visibilité sur le long terme. Et nous, on veut se marier sur le long terme. D'où l'importance de l'avoir au centre de de sa décision, je pense.
C'est ça. Et je pense que même si tu essayes de te préparer, puisqu'on est, on est une génération, on aime bien être prêt à tout, entre guillemets, on essaye de se mettre dans les conditions, oui, mais si toi tu vis ça, ouais, mais si on vit ça. Certes, c'est bien de se poser des questions là, mais les réponses, elles seront jamais fiables à 100% en fait. Parce que tant que tu vis pas
Oui.
le truc directement, bah, tu peux pas savoir comment tu réagis.
Ouais, complètement. Mais ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que on est dans une ère où, en tant que croyant, on met beaucoup en avant ce qu'on appelle les munkabala, les rencontres dans un certain cadre, etc. Je serai pas du tout là pour dire que c'est pas du tout une bonne chose, etc. Je pense qu'on fera un épisode avec des personnes qui sont plus spécialisées sur la question pour expliquer ce que c'est qu'une munkabala, c'est quoi les conditions, etc. Pour aujourd'hui, c'est pas le propos, mais en tout cas, je voulais revenir sur ce que tu as dit parce qu'en fait, tu vois beaucoup sur Internet les 100 questions à poser pour une munkabala. Alors déjà, 100, genre, c'est beaucoup trop. ou en tout cas,
Un harcèlement.
Oui, ou en tout cas, ça peut angoisser. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu peux avoir tendance à te référer à ces 100 questions en se disant, c'est ces 100 questions, il n'y en a pas une de plus, il n'y en a pas une de moins, et il faut que je lui pose toutes les questions, et s'il m'a répondu ça, c'est bon. Non! Aujourd'hui, moi-même, je peux te répondre quelque chose avec mon cœur et j'ai la
Bah, c'est ça.
conviction que ça va se passer comme ça. Je te réponds avec sincérité, mais la réalité, c'est que tout ça, c'est très hypothétique pour certaines questions. Parce que c'est oui, alors comment on fait si tu ne t'entends pas avec ma belle-famille? Comment on fait? Oh ben moi, je réagirais très bien. Alors qu'en fait, bah tu sais pas. Non, mais c'est vrai en fait. Je caricature un peu, hein, mais sans condescendance aucune, parce qu'encore une fois, moi la première, en fait, j'ai eu des réactions. Que j'ai pas vu, que j'ai pas vu venir en fait. Donc c'est hyper humain. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis de dire, mais de toute façon, certes, on est une génération qui veut prévoir beaucoup de choses, mais gardons suffisamment d'ouverture d'esprit pour se rappeler que à la fin de la journée, on ne sait pas. C'est Allah qui sait et on doit avoir suffisamment d'humilité pour se dire on ne sait pas et c'est pas grave. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas le mariage de fonctionner, bien évidemment.
C'est ça en fait. Et je pense que même si, comme tu disais, par exemple, quand tu dis, ouais, par exemple, si tu vas rencontrer la belle famille, quand ça se passe pas bien, comment ça se passe, forcément, logiquement, la personne en face, même si elle est honnête, elle va idéaliser quand même. Elle va te dire, oui, mais moi, je vais avoir la patience. Oui, mais moi, ceci. Oui, moi, cela. Et c'est logique, c'est quelque chose d'humain. Je pense que tu essayes de te montrer sur ton meilleur jour. Mais le quotidien, t'es pas sur ton meilleur jour tout le temps, en fait. C'est pas possible.
Ouais, tout à
Donc,
fait.
faut pas se fier à ça. Mais après, c'est vrai que tu peux pas non plus. Je pense que c'est des questions, même si tu peux pas t'y fier à 100%, il faut les poser quand même. Je pense que ça t'aiguille un petit peu sur le genre de personne que t'as en face de toi.
Parfaitement, parfaitement. Vraiment, moi, je ne suis pas en train de dire que il faut y aller en mode c'est pas grave, pose pas de questions, parce que de toute façon, les questions, tu n'auras pas les bonnes réponses. Mais c'est vraiment, encore une fois, et c'est ça qui est magnifique avec l'islam, c'est qu'on est sur une religion du juste milieu. Donc, on n'est pas en train de dire ne pose pas de questions, mais on n'est pas en train de dire non plus fie-toi uniquement à ces 100
C'est
questions.
ça.
Et si tu réponds bien, c'est sûr, c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie. C'est vraiment essayer de trouver cette balance-là. Et encore une fois, ça, pour le coup, je pense que ça vaut à tous les âges de ta vie, quel que soit l'âge auquel tu te maries, mais tu vois, tu parlais du fait de quelque part de te montrer sous ton meilleur jour, etc. Enfin, en tout cas, pour mon expérience personnelle, là, à 37 ans, 38 ans, je sais plus, bref, bon, je sais plus l'âge que j'ai, j'en suis là, il est vraiment très tôt le matin. Mais en fait, en tout cas, aujourd'hui, moi, me montrer sous mon meilleur jour, je le fais beaucoup moins que dans ma vingtaine. Donc, quelque part, encore une fois, je pense que plus tu gagnes en maturité, plus tu es conscient que t'as pas, c'est pas la peine, entre guillemets, de mettre un masque trop épais, parce que le jour où il tombe, vous avez tous les deux perdu du temps, en fait. Donc, ça vaut pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'encore une fois, s'il y a des frères et sœurs filets qui nous écoutent et qui sont un peu plus dans leur vingtaine, ce message, il s'adresse un peu plus à vous. On vous le dit avec beaucoup d'amour et encore une fois, sans aucune condescendance. Si on revient sur ta première union, Laura, est-ce que, avec le recul, au-delà de l'âge, qu'est-ce qui fait que cette union-là, elle n'a pas fonctionné au sens où ben, ça s'est soldé par un divorce, selon toi?
Alors déjà, on a survécu à l'époque Covid. Ah. Ça a été très compliqué, le confinement. Parlons-en.
Parlons-en, c'est ça. Pourquoi justement? C'est quoi l'impact du confinement? Est-ce que c'est vraiment le confinement qui fait mal à un couple ou le confinement fait mal à un couple qui va déjà mal?
Non, en vrai, je vais pas mentir, le confinement, on a eu la chance, entre guillemets, c'est Allah qui donne, hein, mais d'avoir un appartement, on n'était pas non plus l'un sur l'autre H24. Et je pense que ça joue aussi, parce que je pense pas que l'être humain, en règle générale, couple ou pas couple, famille, pas famille, soit fait pour être H24 avec une personne. Genre, sans moment à soi, quoi que ce soit. Je pense que ça peut vite exploser. Et c'était pas notre cas, on a eu la chance de pouvoir faire un peu chacun nos vies dans un espace réduit, certes, mais on a eu notre espace à nous, en fait. Donc je pense que là-dessus, ça va. Enfin, ça a été. Mais non, après, je pense que ça a été le fait de reprendre à peu près une vie normale. Je pense que ça a été une prise de conscience sur la vie qu'on avait, la vie qu'on voulait avoir, et on s'est rendu compte que ça coïncidait plus. Et puis voilà, quoi, c'est quelques mois. On a été déconfinés en mai, et 2 mois après, c'était terminé, en fait.
Waouh! Mais du coup, ce que tu dis, c'est que finalement, c'est l'après-Covid. C'est quoi? C'est le choc de se dire, oui, bah en fait, maintenant qu'on a la possibilité de sortir, je me sens plus de sortir avec cette personne-là? Ou c'est le fait que le Covid, parfois, il est remis à zéro nos ambitions futures, etc.? Parce qu'on avait parfois l'impression que tout allait s'arrêter, pour que je comprenne bien.
C'est pourquoi il y a eu le confinement et il y a eu le Ramadan pendant le confinement. Donc du coup, c'est une période où tu t'en profites, où là, pour le coup, on n'a vraiment pas eu le choix. On a toujours le choix, mais d'être à 100% vraiment sur le Ramadan et tout ce qui tourne autour de ça. Donc ta foi, tu te remets beaucoup en question et tu te dis, en fait, mais avec cette personne-là, je suis pas là où je devrais être, je suis pas de la façon dont je devrais être, elle m'apporte pas assez de choses qui me tirent vers le haut, tu vois, ce serait plus à l'inverse.
D'un point de vue cheminement spirituel?
Ouais, c'est ça. Et tu te rends compte, en fait, que la personne-là, bah, c'est certes peut-être une bonne personne, c'est pas un problème, hein, mais c'est pas la personne qu'il te faut, c'est pas la personne qui te fait du bien, c'est pas la personne qui te tire vers le haut. Et je me dis, certes, ça, c'est peut-être une épreuve, il y en a qui peuvent surmonter ça sans problème, mais je me suis rendu compte que moi, on avait atteint, en fait, la limite qui faisait que il y avait plus rien de beau à en tirer pour moi, en fait. Donc c'était mieux que ça se termine, c'était plus sage. Même si c'est pas une décision qu'on prend à la légère, genre « Ah, ça y est, tu m'as saoulé et tout, on divorce, c'est terminé. » Non, c'était une décision très difficile à prendre. Mais au moment où elle a été dite et officielle, par Allah, c'était la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Enfin, une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, sans hésiter. Pourquoi? C'est dur.
T'as senti un vrai soulagement? Et en fait, t'as clairement senti, ouais, que Allah a approuvé ce choix-là, c'est ça que tu dis?
Clairement. Je saurais pas comment expliquer, mais... Certes, c'est dur parce que bah, une séparation, c'est jamais joyeux. Ça peut se faire sans trop de dégâts, mais c'est jamais vraiment joyeux. Mais au moment où tu dis que c'est fait et où tu reviens plus en arrière, t'es sûr de toi, bah, Allah, il t'apaise vraiment. Subhanallah, c'est quelque chose de fou. Et là, je me suis dit, ok, bah, faut pas que je me laisse détourner de cet apaisement-là. C'est vraiment là. Je saurais pas comment te dire. J'étais sûre que c'était pas genre un des West-West, quoi que ce soit, tu vois. C'était vraiment un apaisement, genre il y a que Allah qui peut t'apporter ça, je pense.
Subhanallah.
Donc je me suis dit, vas-y, fonce dans cette direction, fais les choses, puis au final ça s'est bien passé, alhamdoulilah, en quelques mois c'était réglé, et bah, aujourd'hui je suis plus heureuse que je l'ai jamais été, donc alhamdoulilah.
Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et c'est quoi la plus grande leçon que tu retiens de cette première union? S'il y en avait qu'une, s'il y en a plusieurs, n'hésite pas à les partager, mais... Parce qu'on sent effectivement que finalement, ça t'a apporté, même si, comme tu l'as très bien dit, une séparation, c'est quand même rarement youpi, quoi. C'est rarement joyeux, parce que ça a toujours des conséquences un peu difficiles à gérer. Mais est-ce qu'il y a des belles leçons que tu tires de cette première union et que tu as emmené potentiellement dans ta deuxième union?
Alors, leçon numéro un.
Ok, il y en a plusieurs.
Toujours placer Allah au milieu de tout, vraiment. Et c'est grâce à ça que ton podcast a vraiment, vraiment de la valeur. Tous les frères et sœurs qui écoutent, là, vraiment, prenez note. Parce que ça met vraiment, ça permet vraiment de remettre, sur, peu importe le thème, que ça soit, comme tu disais, l'argent, la façon de vivre au quotidien. Il y a une vie, en fait, toute une vie de couple, ça comprend tellement de points différents. Mais si tu mets Allah au milieu de tout ça, ça peut que bien se passer.
Et toi, ça, tu sens que, justement, il y avait plus ça entre vous, et finalement... Même que, en fait, il y aurait plus la possibilité de remettre Allah au centre de tout. Et c'est ce qui a fait que, quelque part, tu t'es dit, je ne peux plus continuer cette relation-là. J'ai l'impression que c'est un peu ça que tu dis, quelque part.
En fait, si tu veux, j'étais là. Il y avait ma vie maritale à gauche et Allah à droite. Et les deux, en fait, n'étaient plus dans la même direction pour moi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, tout à fait.
Donc, du coup, le choix était vite fait. Hein.
Oui, ok, c'est magnifique.
J'ai pas eu envie de me perdre davantage. Pour moi, c'est vraiment si je continue dans cette relation, je me perdais.
Waouh, ok. Et alors, tu vois, j'allais te poser cette question après, mais on peut en parler tout de suite avant de passer à la leçon numéro 2 peut-être. Mais comment tu fais pour mettre Allah au centre de ta vie? Parce que ça, je pense que c'est un enjeu qui est colossal dans notre génération. Et pour moi, en fait, si ce podcast, il doit servir à une chose, et encore une fois, tous les bienfaits de ce podcast, toute la louange revient à la soirée interne, mais ma question, c'est... Enfin, moi, ma conviction, c'est ce qui fera que le couple musulman est un couple fort, c'est Allah, c'est pas nous. Nous, on n'est que des êtres humains, en fait. Donc, on n'est pas mieux que des personnes qui sont en couple et qui n'ont pas mis Allah au centre de leur vie. Mais du coup, pour beaucoup d'entre nous, j'inclus tout le monde, mettre Allah au centre de sa vie, ça peut être un challenge, en fait. Parce que Allah, potentiellement, c'est très facile de sortir Allah de son quotidien. En 2023 et en France, c'est archi simple. Donc, comment toi, tu fais aujourd'hui pour mettre Allah... Vous faites, pardon, parce que vous êtes en couple, vous êtes mariés, comment vous faites pour mettre Allah au centre de votre vie et toujours vérifier? Parce qu'en fait, en plus, il ne s'agit pas de le mettre une fois pour se dire « c'est bon, c'est quelque chose
qui... » Validé, on n'en va plus.
Voilà, voilà. C'est quelque chose que tu dois toujours rechecker. Donc, comment vous faites?
Mais je pense que ça part d'un point de vue individuel avant de parler d'un point de vue de couple, en fait.
Parfaitement, ouais.
Chacun doit être en accord avec ce qu'il est sur son propre cheminement avant de pouvoir avancer à deux. Je sais pas si t'as vu tourner sur... Ah ben non, t'es pas sur les réseaux. Mais du coup, sur les réseaux, il y a une espèce de triangle qui tourne, en fait, avec... genre, Allah au sommet. Et t'as l'épouse et l'époux. Et selon, en fait, le rapprochement qu'ils ont à Allah, donc en fonction de là où ils montent sur le triangle, ils se rapprochent l'un l'autre. Je sais pas si tu vois.
Oui, je vois tout à fait. Et en fait,
c'est tout ça.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est super ce que tu dis là, parce que moi, ce triangle... Donc, non, effectivement, je ne suis plus sur les réseaux. Mais en fait, ce triangle-là, moi, subhanallah, je l'avais en tête, mais je n'avais pas forcément en tête le fait de cheminer à chaque fois vers Allah. Et plusieurs personnes, plusieurs invités de ce podcast à qui je passe le salam, ont toujours remis en place ce triangle-là. Et je me dis, peut-être que ce n'est pas pour rien, peut-être qu'à subhanallah, s'il nous permet à chaque fois de revenir sur cette notion de triangle, c'est pour que chacun d'entre nous, on se rappelle... l'importance justement de prendre en considération ce triangle et je ne vais pas dire la véracité de ce triangle-là, la Harlem, mais en tout cas de son importance, je pense, et ça nous donne vraiment de quoi méditer. Parce que pour moi, placer Allah au centre et au-dessus, c'est une réalité, mais cheminer, c'est ça qui fait que quelque part, tu checkes tout le temps et tu t'assures qu'Allah, il est au centre, en fait.
Bah, en fait, c'est comme si tu vois, par exemple, parce que là, on parle d'un mariage, mais c'est valable, je suis en train de réfléchir en même temps, avec toutes les relations que tu as avec ta famille, avec tes amis ou quoi que ce soit. En fait, c'est comme si Allah, c'était le soleil, tu sais, le rond quand tu dessines, quand t'es un enfant, tu vois. Et que chaque rayon, en fait, c'était nous, les musulmans. Et plus tu te rapproches du rayon, bah plus on est proches les uns des autres. Tu vois ce que je veux dire? Et le soleil, je trouve que c'est magnifique comme image. Ah, je me suis inspirée toute seule.
Merci de nous inspirer aussi,
alhamdoulilah. Avec plaisir.
Ouais. C'est pour moi. Alors, est-ce que tu as d'autres leçons à partager de ta première réunion, Laura?
Du coup, je me suis perdue dans la leçon numéro 2.
Prends le temps.
J'aurais dû les noter, tu vois. Non, la leçon numéro 2, en vrai, c'est la communication. Mais pas la communication, juste dire ce que tu as à dire et ça y est, c'est bon, moi j'ai parlé et c'est bon, c'est terminé. c'est aussi d'apprendre à écouter, parce que parler c'est bien, mais s'il n'y a pas de compréhension, bah ça n'a pas grand intérêt. Et apprendre à... Et ça, je l'ai appris à le formuler grâce à toi. C'est de... Même si l'autre, il est différent, et que c'est pas forcément ce que toi, t'aimerais... Enfin, l'autre, il est pas toi, tu vois. Et ça, une fois que tu l'as bien mis dans ta tête, bah, en vrai, ça te soulage de beaucoup de choses.
Bien sûr,
Et
bien
ça te
sûr.
permet de libérer ta charge mentale, parce que nous, les femmes, on aime bien... Bah, malgré ce qu'on dit, je pense qu'on aime bien l'avoir, cette charge mentale, parce qu'on aime bien se dire, ouais, on est capable de tout faire. Mais à un moment donné, on peut pas non plus le reprocher aux autres, en fait. C'est pas
Ouais, c'est
parce que nous, on
sûr.
veut porter cette charge mentale que le monde en est responsable si ça va pas comme nous, on veut. Et je pense que
Ouais,
c'est
c'est
pareil
sûr.
dans l'autre sens, mais il faudra avoir l'avis de monsieur pour en
Pour en
témoigner.
préjuger. Oui,
Ouais.
c'est clair. Bah, en tout cas, je ne sais pas si on aime bien la voir, mais ce qui est certain, et je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui commencent à le dire, c'est que une partie de la charge mentale, effectivement, c'est une pression qu'on se met. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, effectivement, bah, nous, on aimerait bien pas avoir à supporter autant de choses, mais je pense que beaucoup de femmes, on a comme quelque chose à prouver. On veut se
Ouais, c'est ça
prouver
en
qu'on
fait.
peut tout gérer, et puis en plus, quelque part, on veut aussi on veut une autonomie financière qui peut être certes extrêmement importante hein, dans le monde contemporain. Moi, franchement, je ne remets pas en question tout ça, mais effectivement, tout ça mis bout à bout, bah, ça fait que dans la charge mentale qu'on a et qui est vraiment lourde, il y a des choses qu'on pourrait déposer. Si on était à l'aise avec le fait, ne serait-ce que de ne pas être parfaite, le simple fait de ne pas pouvoir tout gérer, de dire bah c'est OK, en fait, tout simplement.
C'est ça.
Mais j'aimerais juste revenir sur la communication parce que moi, j'ai quand je me suis mariée, je me suis dit, bah franchement, il y a quelque chose, enfin, quelques semaines après, je me suis dit qu'il y a quelque chose que j'aurais bien aimé entendre dans ce podcast. Donc, je me permets de le partager. C'est qu'en
Dis-le.
fait, on nous dit que la communication, c'est important. Évidemment, c'est important. Mais communiquer avec une personne que tu connais pas beaucoup, c'est super dur. Et ça, on te le dit pas beaucoup. En fait, enfin, bah, quand tu te maries avec une personne que tu n'as pas vue beaucoup de fois ou que tu n'as pas fréquentée, bon, bah, force est de constater que tu la connais pas des masses, quoi. C'est pas dire que tu
Oui.
la connais pas. C'est vrai, c'est une réalité. Donc, tu sais pas toujours comment l'appréhender. Et puis, en fait, toi, tu veux pas non plus blesser l'autre, etc. C'est super dur. Et en fait, tu peux avoir tendance à garder vraiment au fond de ta gorge des choses parce que tu sais pas comment communiquer. Alors que pour autant, ben, moi, je suis quelqu'un qui communique beaucoup, etc. Je peux être assez volubile. Mais franchement, quand c'est ton époux, c'est pas la même chose. Et je pense qu'il faut rappeler aussi aux jeunes mariés, jeunes dans le fait de qui viennent de se marier, que ça s'apprend en fait de communiquer et que les premières semaines, t'arriveras pas forcément à communiquer. C'est pas grave. Faut se donner un peu de grâce et se dire en fait, vous arriverez à un moment où tu pourras communiquer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, moi, dans ce podcast, j'ai accueilli beaucoup de professionnels qui nous disent attention à ne pas incriminer l'autre, faire attention au tu, T-U qui tue, T-U-E, toujours bien amener les choses. Franchement, quand tu es une people pleaser et que tu aimes bien faire plaisir, etc., c'est bien tout ça. Je remets pas ça en question, mais en fait, parfois, tu peux trop prendre sur toi, justement. Parce que ben, je sais pas comment le dire sans froisser l'autre. Mais en même temps, moi, il y a des choses qui me font mal, que j'arrive et que je voudrais dire, mais comme t'as pas trouvé la bonne manière de le dire, tu le dis pas. Ben, en fait, ça, c'est pas très bon non plus. Encore une fois, on est dans la religion du juste milieu. Et en fait, je pense qu'il faut quand même repréciser que quand tu es quelqu'un, en tout cas, qui est un peu hypersensible et qui aime pas froisser l'autre, il faut quand même aller au-delà de ce que tu es. Et parfois, il faut aller parfois au contact, je dirais pas au conflit, mais en tout cas au contact, pour pouvoir déposer les choses, parce que sinon, tu vas t'étouffer sous ta frustration, en fait. C'est juste quelque chose
Clairement.
que je voudrais repréciser, parce que je trouve qu'on l'entend pas beaucoup.
Mais après, dans tous les cas, tu connais jamais, parce qu'il y a, y a, ça arrive où des couples enfin des maris et femmes se sont connus avant le mariage, des fois 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais tu connais jamais vraiment la personne tant que tu vis pas avec, déjà, de un. Parce que tu vois vraiment sous ses phases, quand il est fatigué, quand tu rentres du travail, quand le matin, quand il n'est pas forcément d'humeur ou quoi que ce soit. Et c'est là, en fait, que tu vois vraiment si tu arrives déjà à parler avec la personne, parce qu'il y en a, tu peux pas leur parler avant le troisième café du jour.
Ça arrive.
Et ça, c'est compliqué déjà. Et c'est là vraiment où tu vois où tu peux, enfin, ton niveau d'adaptation en fait avec la personne. Parce qu'il y en a qui sont très joyeux le matin, il y en a qui se font la gueule toute la journée. et c'est un peu plus compliqué de communiquer, mais je pense qu'il y a quand même toujours une façon de dire les choses. Tout peut se dire dans un mariage. Tout peut, il n'y a pas de tabou. Parce que ton mari ou ta femme, du coup, c'est la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Tu as vu des épreuves de fou malade que tu peux même pas imaginer à l'heure qu'il est. Des bonnes comme des mauvaises. Il y a la maladie, peut-être des fois des problèmes de santé, des pertes, bah, des décès ou quoi que ce soit. Et faut être solide. Mais tout peut se dire. Je pense que s'il y a une personne dans ton entourage à qui tu peux tout dire, à qui tu peux devoir tout dire, c'est ton mari ou ta femme. Mais
Ouais,
justement,
c'est
c'est la
clair.
personne avec qui tu dois au début peut-être prendre des gants, mais il faut dire les choses quand même. Faut pas manquer de respect sous prétexte que bah c'est un peu j'ai l'impression que c'est un truc qui se banalise aussi en 2023. C'est mal parler tout le temps. Tu sais, être un peu
C'est quelque chose que tu
agressif ou
observes,
quoi que ce
toi?
soit.
Au sein du couple, je
Pardon?
t'entends? C'est quelque chose que tu observes beaucoup? Au sein des couples
Mais ouais, je pense
qui
qu'il y a beaucoup
t'entourent?
de violence. Enfin, je pense que la violence, c'est tellement quelque chose qu'on a en nous maintenant qu'on se rend même plus compte, en fait. Bon, alhamdoulilah, je me sens pas visée quand je dis ça. Un peu peace and love et
Alhamdoulilah.
tout, non, mais ouais, je pense que la violence fait partie de nous, qu'on le veuille ou non. Et genre, je vois beaucoup de gens, des fois, qui se parlent, même en public, en fait. Et je me dis, mais en fait, comment, s'ils se parlent comme ça devant des gens qu'ils ne connaissent pas, comment ça se passe quand ils sont tous les deux à la maison? Ça doit se jeter des trucs et tout, ça doit être catastrophique. Et je me dis, mais comment. Tu peux pas communiquer comme ça.
Ah bah c'est sûr, mais c'est pas de
À
la
peine tu.
communication. Oui.
Même tu dis un truc qui est vrai, c'est une vérité, un reproche qui est vrai. Si tu dis en criant ou en insultant la personne, elle t'écoute pas, en fait. Donc du coup, ça sert à rien, t'as dit ton truc, c'est perçu comme un reproche, au lieu d'être perçu comme quelque chose qui pourrait aider à avancer, c'est fini. Après, ça s'accumule des deux côtés et c'est la guerre avant même que ça a commencé, en fait.
Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait,
Apaisez
enfin.
vos cœurs, tous.
Bah non, mais t'as raison. Et d'où l'importance, effectivement, de faire attention à ce que tu dis. Ou en tout cas, de s'auto-checker, de se dire d'où ça vient, en fait. Si je suis énervée, pourquoi je suis énervée? Est-ce que c'est quelque chose que je peux radoucir avant de m'adresser à l'autre, etc. Et je reviens juste sur ce que tu disais. Tu sais, quand tu dis, mais en fait. Ton époux ou ton épouse, selon que tu sois un frère ou une sœur, c'est la personne à qui tu dois pouvoir tout dire. Et je suis d'accord avec toi. Et en fait, je me dis que quelque part, la solution, encore une fois, pour des personnes qui peuvent avoir du mal à dire les choses, c'est de se rappeler que le mariage, c'est une course de fond. On est là sur le long terme. Donc, ne prenons pas de mauvaises habitudes tout de suite en se disant « je ne dis rien ». C'est pas ça la solution, mais de se dire « bon, je me donne un peu de grâce. Là, j'ai un peu de mal à m'exprimer, mais c'est pas grave. Il vaut mieux. » Préserver toujours, malgré tout, je pense, plutôt que d'agresser, mais se dire quand même, sur le long terme, il faut que ça évolue. Miser sur le long terme pour faire en sorte d'avoir une communication à la fois apaisée et transparente, Inch'Allah. Si on revient sur ton histoire à toi, est-ce que tu peux nous dire, quand tu rencontres celui qui est du coup ton mari actuel, quel âge t'as et qu'est-ce qui te fait réaliser que ce sera lui, ton mari.
Alors, c'était en 2021. Donc, j'avais 2 ans de moins. Les calculs, c'est trop tôt pour faire des calculs à cette heure-ci.
C'est ça, 26 ans, je
Mais,
crois, du coup.
ouais, c'est ça. Attends. 25, du coup.
25.
Et c'était quoi la question, du coup?
Ma question, c'était quand tu rencontres celui qui est ton mari actuel, qu'est-ce qui te fait réaliser que lui, c'est un futur époux potentiel. Et est-ce que, en fait, pour te faire réaliser ça, tu as pris en considération, du coup, ton histoire précédente, tu as pris en considération les leçons que tu nous as partagées? Est-ce que vraiment ça a joué, du coup? Est-ce que vraiment tu t'es posé et tu t'es dit, au vu de ce que j'ai vécu, au vu des leçons que j'en ai tirées, ce sera lui, mon mari?
Bien sûr, ça serait bête de ne pas avoir ce cheminement-là. Tu vis une expérience, tu t'apprêtes à revivre une autre expérience qui est enfin, semblable dans le même camp de bataille, on va dire. Ça serait tellement fou de ne pas prendre cette première expérience pour t'en servir justement pour rendre la deuxième meilleure. Ça serait tellement. Pour moi, ça serait pas bah, bête du coup. Parce que je me dis, tu l'as vécu, t'as souffert, tu t'es battu, tu t'es investi quand même énormément dans cette relation. Il faut que t'en retires des choses, sinon ça sert à rien, comme toute expérience de la vie. Et je me dis, ah ouais, donc moi, du coup, ça m'a appris, et c'est ma leçon numéro 3, il faut apprendre à se connaître soi-même et à s'accorder du temps à soi, parce qu'une relation, c'est pas genre, ah, je donne tout pour mon mari, j'y vis pour mon mari, non, non, non. Parce que si, pour peu que ton mari se pense pas comme ça, bah du coup, c'est tout pour lui et rien pour toi. C'est valable dans les deux sens. Et en
Bien
fait,
sûr.
c'est non, il y a lui, il y a moi, et du coup, il y a nous. Mais pour qu'il y ait nous, faut qu'il y ait lui et il y a moi. Donc, faut apprendre à se connaître soi-même. Ce qui c'est, du coup, cette expérience m'a permis à beaucoup, beaucoup apprendre sur moi. J'ai pris en maturité, j'ai pris en patience.
Comment t'as fait pour apprendre sur toi pendant ce parce que c'est cette année-là, je crois, finalement, entre ta séparation et la rencontre avec ton mari actuel. Est-ce que tu as eu un cheminement particulier ou est-ce que c'est juste que bah, de temps en temps, tu repensais à cette histoire et tu voyais comment tu avais évolué?
Bah, du coup, le divorce a fait que j'ai dû retourner chez ma mère. Du coup, je me dis, ah ouais, donc là, du coup, maintenant c'est terminé parce que j'avais arrêté de travailler pendant mon mariage. Et là, du coup, j'ai dû refaire la démarche pour retravailler, pour bah, avoir des revenus, en fait, pour vivre, quoi. Tout simplement. Et là, je me suis dit, ok, donc maintenant, en fait, il faut que je pense à moi avant tout. Parce que personne pensera à moi, à ma place, en fait. C'est peut-être égoïste. Je trouve que ça fait du bien d'être égoïste par moment. Parce que quand on s'oublie dans une relation, que ça soit au final amoureuse ou amicale, quoi que ce soit, mais c'est là que t'en souffres, tu vois. Là qu'il te manque
Bah, je
quelque
sais.
chose, et là je me suis dit, personne ne viendra m'apporter ce dont moi j'ai besoin, parce que personne ne sait mieux que moi à l'heure actuelle ce dont moi j'ai besoin. Et moi je suis là, moi je suis quelqu'un et tout, j'ai les capacités de me donner ce que je veux. J'ai besoin de personne au final pour ça. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Et vas-y, fonce. Fais ta vie toi-même et tout. Puis je m'attendais pas du tout à me marier aussitôt, clairement. Enfin, me remarier aussitôt, du coup. Et elle est tombée comme ça, comme une évidence.
La fameuse évidence. Bah, juste, en fait, ça allait être ma prochaine question, mais juste avant qu'on aille sur cette prochaine question-là, ou non, on peut y aller directement, en fait. Qu'est-ce qui te fait dire que, du coup, c'était une espèce d'évidence? Et est-ce que tu as eu l'évidence? Parce que ça, c'est un grand débat qu'on a souvent avec mes amis, t'as la team. Mais si, tu sais quand c'est la bonne personne, et t'as d'autres qui te disent non, tu sais pas vraiment, tu fais au mieux, tu peux sentir que c'est une personne bien, qui a des bonnes qualités, à qui tu peux te projeter. Mais il n'y a pas ce truc de j'étais sûre que c'était lui. Comment toi, tu l'as perçu, du coup?
Je pense qu'il y a une différence entre le coup de cœur ou celle-là où tu dis, ouais, ah, c'est sûr, c'est lui, tout, machin, c'est une évidence, machin, je peux pas vivre sans cette personne, c'est sûr, ça, c'est le cœur qui parle. Mais il faut que la raison vienne se mêler à tout ça, en fait. Il faut se dire, ouais, ok, donc là, t'as le coup de cœur et tout, tu sais que pour certaines raisons, bah, t'as le plus et affinité, du coup, par rapport à n'importe quelle personne que tu trouves sympathique ou agréable ou quoi que ce soit. Et justement, faut que la raison vienne se mêler à ça, se dire, ouais, mais justement, toi, t'as vécu ça, cette personne, elle peut t'apporter ça, ça te convient, c'est ce qu'il te faut, tu vois, mais faut apprendre à savoir ce dont t'as besoin, du coup, avant de savoir si la personne peut t'apporter ce dont t'as besoin. Faut savoir, mais c'est ce que je te disais, en fait, faut vraiment apprendre à se connaître soi-même, et je pense que ce premier mariage et l'année de séparation, enfin de pause, on va dire. Ça a vraiment permis de me connaître et de savoir ce dont j'avais besoin. Et du coup, j'ai su que. Après, on a discuté, hein. Ça s'est pas fait en un échange de regards
Bien
et puis
sûr.
voilà quoi.
Donc quelque part, ce que tu dis, c'est que l'évidence, c'est un mélange de je me projette avec cette personne pour des raisons que tu peux pas toujours pressentir, et un mélange de c'est une évidence parce que objectivement, je vois ce que je peux apporter à cette personne, parce qu'il faut toujours regarder dans ce sens-là aussi, et ce que cette personne, elle peut m'apporter. C'est ça pour toi finalement l'évidence?
C'est ça.
Ok, c'est hyper intéressant. Parce que justement, ça nous sort du classique, je le sens dans ma chair, c'est un peu plus que ça finalement.
Oui, bah ça après c'est la vision Instagrammable comme je t'ai dit tout à l'heure. Genre tu vois ton mari comme dans les films et là c'est coup de cœur, il y a échange de regards et là c'est une évidence. Et... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, ça peut se
Ah ouais,
passer
c'est
comme
pas
ça,
comme
mais
ça?
généralement ça
Ouais.
se... Je pense qu'il y a un moment donné en fait où tu te renseignes sur la personne, sur sa famille, ta famille, et là c'est des questions dont on parlait au début. Tu te mets dans les situations en fait, tu dis toi, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Parce que forcément, bah, même si tu es jeune, tu as eu un cheminement en fait. Même si tu te maries dans la vingtaine, tu as vécu des choses, que ça soit dans ta famille, avec peut-être des anciennes relations ou avec des relations amicales, des fois ça t'apprend aussi sur toi-même. Et là en fait, tu te dis mais j'ai vécu ça, moi aujourd'hui je suis cette personne. Avec ce vécu, avec cette expérience, et est-ce que toi, du coup, avec ton vécu et ton expérience, on peut s'apporter des choses mutuellement dans le bien. Parce qu'il y a des couples qui sont très nocifs les uns, enfin, l'un pour l'autre. Et ça, bah, personne ne veut ça, je pense, pour soi. Mais ouais, il faut se poser les questions. En vrai, il faut communiquer. Hein, parce que dans les cadres légaux, bien sûr. Enfin, légal et licite, bien sûr.
Bien sûr, mais... bien sûr.
Mais ouais, non, je pense qu'il faut vraiment échanger. Justement, je pense que c'est peut-être dans cette phase-là où il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Parce que, comme tu dis, si tu fais semblant et que tu montres vraiment que la belle façade de toi, enfin la belle facette de toi, ben, du coup, l'autre, il aura une vision biaisée de ce dans quoi il s'aventure.
Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut vite... Si la différence est trop grosse avec ce que t'as montré au début et ce que t'es réellement en fait une fois que t'es marié, ça peut juste ce sujet, ça peut être des conflits.
Oui,
même
bien
si
sûr.
Les problèmes en soi sont pas très graves, le simple fait que t'es pas tout montré, enfin tout montré, tu peux pas tout montrer, mais que t'es un peu entre guillemets caché la vérité, toi caché
en
comment,
tout cas cacher des
commerce,
parties importantes,
tu vois,
oui c'est ça, ou enfin cacher des réalités qui ont un impact dans le quotidien du mariage.
Ouais,
parce qu'en fait,
clairement.
Quand on a commencé à discuter, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, le mariage, c'est beaucoup de quotidien, en fait. C'est ça, quand tu dis qu'en fait, c'est une relation qui est halal, c'est que ça se joue beaucoup sur le quotidien. Bien sûr qu'on met Allah au centre de notre vie, de nos choix, etc., mais il y a beaucoup, beaucoup de quotidien. Et dans le quotidien, il y a beaucoup de ce que tu es, en fait, en bien et en moins bien. Et j'ai d'autres questions là-dessus, mais la première question qui me vient, c'est est-ce que du coup, t'as inclus Allah justement dans ton processus de réflexion et de décision? Et comment t'as fait du coup?
Bah, clairement, en fait, quand je me suis demandé ce que cette personne pouvait m'apporter, je me suis pas. J'ai pas été égoïste en mode de, ah, il pourrait m'apporter une stabilité financière. Cette question-là, tu peux te la poser, t'es en droit de te la poser, mais il faut que ça soit avec justement l'œil religieux. Genre, par exemple, si toi tu veux travailler, mais que lui, enfin, tu vois, ça c'est des questions qui sont entre guillemets banales en première vue, mais ça peut tellement impacter ta vie sur le long, enfin, moyen, court, long terme, au final, tous les termes possibles. Et il faut vraiment te dire, oh là, il veut ça pour moi, comme il le veut pour chacun d'entre nous, au final. Et est-ce que cette personne-là, elle peut m'apporter ça? Est-ce que moi, je peux, comme tu disais, au final, c'est de la réciprocité. Est-ce que moi, je suis en mesure de lui apporter ça? Et c'est vraiment en plaçant Allah au milieu de toutes ces questions que tu te dis, en fait, bah, cette relation, il y a quelque chose de très bon à en tirer, tu vois. C'est pour ça que je pense que chaque personne musulmane ne peut pas... tu peux pas être compatible avec tout le monde. Parce que justement, on a tous nos histoires, on a tous... Même si, parce qu'entre guillemets, ça serait tellement évident, tu dis, Allah, bah, il a voulu les mêmes choses pour tout le monde, tu vois. Donc, si tu portes cette logique, tu dis, chaque homme pourrait être avec chaque femme. Mais en vérité, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a ton histoire à toi aussi qui vient influencer, faire ce que tu es et ce que t'attends de l'autre aussi.
Bien sûr, Allah, il nous a créés tous extrêmement différents. Mais encore une fois, je pense que c'est le juste milieu à trouver entre, tu peux pas te marier... avec n'importe qui, tout le monde ne peut pas, toi t'es pas mariable avec n'importe qui et toi tu peux pas te marier avec n'importe, enfin tu peux pas épouser n'importe qui non plus. Et d'un autre côté, avoir une vision suffisamment large pour te dire t'es pas obligé. Moi ma pensée du moment, mais je sais pas si c'est une réalité ou pas, c'est que tu peux, enfin le champ des personnes avec qui tu peux t'unir, il est plus large que ce que tu peux penser. Justement, une fois que tu sors de l'évidence de il y a une personne, etc., faut s'ouvrir en fait en se disant dès lors où tu comprends ce que c'est que le mariage, l'enjeu du mariage, et qu'on n'est pas juste sur sa petite personne à soi, comme tu l'as très bien dit, c'est qu'est-ce que la personne elle peut m'apporter, qu'est-ce que moi je peux lui apporter. Le champ des prétendants, je trouve, il s'élargit. C'est pas que je peux parler avec n'importe qui, hein, mais ça veut dire que t'es un peu plus ouverte sur les origines, sur certaines choses qui vont faire que toi, tu es toi, en fait. Je sais pas si je suis très claire dans ma...
Je vois ce que tu veux dire. Je prends. Parce que du coup, c'est vrai que... Non, mais j'essaie en même temps de réfléchir sur ce que tu dis en même temps que je t'écoute. Mais c'est vrai que... Tout dépend de tes critères, en fait. Tout dépend de ce que tu veux. Plus tu veux quelque chose de précis, forcément, moins il y aura de personnes qui répondront à ces critères. C'est logique.
Exactement. Et quand
Mais du
plus
coup,
tu.
est-ce que tous les critères méritent d'être mis au même niveau?
Bah non. Et je pense que c'est ça le plus dur, en fait, c'est de comprendre quels critères tu pousses, quels critères tu recules. Parce qu'il y a des critères qui te semblent super importants pour toi. Et dans le cadre de la compatibilité du couple, c'est pas juste toi, ta petite personne, mais c'est dur, en fait, de savoir comment ce critère, tu le recules ou pas. Et encore une fois, pour moi, d'où l'importance de mettre Allah au centre, parce qu'en fait, c'est lui qui va t'expliquer, en fait. C'est lui qui va te montrer, non, en vrai, ce critère-là, c'est important. Tu crois que c'est important là, à l'instant T, mais tu n'en as pas réellement besoin. Je comprends, mais fais-moi confiance, recule ce critère-là, accepte cette personne. Et tu verras que, elle va t'amener des choses dans ta vie que tu soupçonnais même pas. Ou encore une fois, tu auras des épreuves dans 3 ans, 5 ans. Je peux te garantir que le caractère de ce frère-là que tu as épousé, que de cette sœur que tu as épousée, sera incroyablement, utile pour te rapprocher de moi, Allah, et de te rapprocher de votre objectif qui est de cheminer ensemble vers le paradis, en fait, et d'obtenir le paradis.
C'est ça. Mais je pense que vraiment la compatibilité, c'est vraiment juste sur le début que ça joue en fait pour les affinités entre deux êtres humains lambda. Mais après vraiment c'est le fait de placer Allah au milieu de tout qui fait que ton quotidien sera facilité. Parce que même s'il y a des divergences dans ton couple, que lui il pense ça et que toi tu penses l'inverse, si vous êtes butés chacun de votre côté, ça sera un conflit éternel. Mais si vous dites bon ok, toi, t'es comme ça. Et ça, c'est valable même avec les cultures. Les cultures différentes, ça peut poser énormément de problèmes. Genre, ah, toi, t'es marocain. Je prends un exemple, hein, je vise personne. Mais toi, ah, t'es marocain. Ah, toi, t'es turc. Ah, on n'est pas pareil. Chez nous, on fait comme ça. Nous, on fait comme ça. Bon, faut qu'on se pose. On se dit, Allah, dans sa religion qui nous a descendu parfaitement, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir aussi mettre de l'eau dans son. Pas
Dans
vin,
son
du
bissap,
coup.
moi je dis souvent. Dans son jus de
Mettons de
fruits.
l'eau dans nos bissas, parce que c'est trop sucré, sinon
Exactement.
ça pique. Et non, mais sérieusement, il faut vraiment. C'est là que mettre Allah au milieu de tout, ça prend tout son sens. Parce qu'on est tous des individus à part entière. On a tous nos histoires, on a toutes nos cultures, tout ce que tu veux. Mais au final, Allah, il n'a descendu une seule religion. Il n'a pas descendu une religion pour tel peuple ou telle culture ou pour les hommes ou pour les femmes. On a la même, tous la même. Et ça devrait nous c'est ça qui nous rassemble au final. Peu importe tous les musulmans du monde entier, c'est ça qui nous rassemble. C'est quand on est tous unis vers la même direction.
Ouais, c'est clair. Non, non, c'est clair. Mais c'est juste qu'effectivement, parfois, tu te rends compte que dans ton quotidien, tes réflexes, tes décisions, elles sont très ancrées dans ta culture d'origine. Mais en tout cas, c'est
C'est
clairement
vrai.
le constat que j'ai eu dans mon histoire personnelle. Et pourtant, Dieu sait que je pensais m'être affranchie de certaines choses. Donc, comme quoi, on n'est jamais à l'abri, justement, d'évoluer sur ces questions-là et de se délester du poids de la culture ou même d'autres choses, tu vois, juste de sa personnalité. Encore une fois, Arlène nous a créé tous très différents, mais faut pas non plus être trop, trop, trop tourné vers le moi, je suis extrêmement, extrêmement hypersensible, ou moi, je suis, j'aime beaucoup ça, 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 ça. Donc, du coup, je veux quelqu'un qui aime ça, 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 ça. Tu es autre chose que ça, tu es aussi un croyant. Mais encore une fois, la balance. Ça veut pas dire que
Juste au
faut tout
milieu.
jeter à la poubelle. Oui, exactement. Ma prochaine question, Laura, c'est une question qui est un peu plus globale, mais qui concerne le mariage des personnes qui sont un peu dans leur vingtaine. C'est quoi les plus gros défis à relever quand on se marie jeune entre guillemets, en 2020 ou en 2023, peu importe. Est-ce que tu trouves qu'il y a des défis qui sont propres à des générations, ou est-ce que tu trouves que, bah, en fait, les défis, sont tous les mêmes pour les couples mariés, la communication, l'éducation des enfants, encore une fois, toujours s'assurer qu'Allah est au centre. C'est quoi ton avis sur la question?
Bah, je dirais qu'à la vingtaine et peut-être au début de la trentaine, parce qu'on est assez. Je pense qu'on a beaucoup de retard par rapport au. Enfin, de retard. Au final, chaque personne a son temps. Mais par rapport aux générations de nos parents ou nos grands-parents, à 30 ans, on veut encore s'amuser, on pense encore à faire des choses. On n'a pas trop envie de prendre trop de responsabilités trop tôt, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est un peu la grosse tentation, la grosse épreuve de notre génération. On n'a pas trop envie de. Ouais, de l'expression de se faire mal à la tête trop tôt, en fait. On se dit, attends, moi, je veux bien me marier et tout, mais pour partager des bons moments, ou pour être dans le licite, ou pour avoir des enfants tôt. Mais il y a des responsabilités. Tu vois, et si tu t'es pas prêt, t'as pas les épaules pour les affronter, c'est un peu compliqué, tu vois. Chose qu'à 30 ans, t'auras peut-être plus, ça sera peut-être plus ancré dans ta vie à toi, et à 40 ans, encore plus. Et à ça, mais après, je pense que il y a des exceptions à tout. Il y en a qui ont 20 ans et qui sont très matures. Il y en a à 40 ans qui sont encore, qui vivent comme des enfants insouciants, quoi.
Complètement.
Après, c'est, ouais, je pense pas qu'il y ait un problème par génération, mais après, je pense que oui, c'est, faut trouver la personne qui est en accord avec le mode de vie que tu vas avoir et qui en même temps puisse te guider si jamais t'as un peu trop, tu te laisses un peu trop vivre, bah, te dire, ok, c'est bien, vis ta vie, profite bien, mais faut quand même mettre la religion au milieu de tout. Tu vois, une personne qui, enfin, je vais prendre un exemple bête, mais un couple qui pense beaucoup à s'amuser, à voyager, dans tous les pays du monde, ça sera, ils auront peut-être pas forcément le même cheminement que des personnes qui placent la prière, ou les activités, par exemple, autour de la mosquée, ou les voyages pour le pèlerinage. Tu vois, au final, c'est deux modes de vie qui sont totalement différents. Pourtant, les deux seront mariés, ils auront peut-être le même âge, mais ils n'auront pas la même mentalité, ni le même rapport par rapport à la religion, du coup.
Ouais, évidemment, évidemment. Et est-ce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et ma prochaine question, c'est finalement, est-ce que tu penses que les célibataires qui sont justement dans la... Parce qu'il y a deux choses, il y a le fait d'être dans sa vingtaine et il y a le fait d'être en 2020, qui est un peu cette époque où Netflix bat son plein, Tinder, d'autres applications. C'est une réalité en fait. Hein. Encore une fois, en tant que musulman, on vit dans cette réalité-là. Est-ce que tu penses que justement... les défis des célibataires qui sont dans leur vingtaine en 2023 sont aussi les mêmes, à savoir le manque de maturité ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses? Tu as souvent dit, oui, ça c'est Instagrammable, c'est pas Instagrammable. Est-ce que tu penses aussi que les réseaux sociaux, ils ont un impact dans le mariage et dans le célibat?
Et bien sûr, les réseaux sociaux et même en global, Internet en 2023, tu as accès à tout et n'importe quoi juste en deux claquements de doigts. Dont, bah, quand concernant le mariage, la tentation. Avant, enfin, tu voyais pas forcément des filles s'exposer, parce que moi je dis ça parce que je suis une fille du coup, et tu voyais pas forcément d'autres filles. Donc du coup, la tentation pour un homme, moi je me dis, mon mari, il a juste arrêté son téléphone. Il va sur Insta ou peu importe les réseaux, il voit des filles partout. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il pourrait être tenté. Mais lui, si dans sa tête, il est rodé et pour lui, c'est clair qu'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas le date parce que ça l'intéresse pas, ben, je suis tranquille. Mais quand t'as pas cette tranquillité-là, ça peut être un problème, mais qui peut tuer un couple, je pense. Il y a des filles partout. Là, tu sors. En plus, on est en France, donc on n'est pas un pays musulman. Tu sors, il y a des. Là, il commence à faire un petit peu. Les températures commencent à monter. Tout le monde se dénude. C'est une tentation permanente. Donc tu te dis, pourquoi j'irais me marier avec quelqu'un, sachant que, enfin, faut être prêt aussi à assumer ça, en fait. Tu vois, te dire, enfin, avoir la confiance et la tranquillité d'esprit. Tu dis, ouais, ton mari, il faut qu'il ait son temps à lui. Mais du coup, bah, son temps, c'est peut-être avec des mauvaises personnes. Enfin, des mauvaises personnes. Pas forcément, mais des personnes qui peuvent ne pas forcément respecter ses choix à lui, enfin notre religion à nous, du coup cette pudeur qu'on est censé avoir entre nous, et ça peut être une problématique. Je pense que c'est la principale d'ailleurs en 2023. Les réseaux, enfin les, comment ça s'appelle, les sites de rencontres. Il y en a
Ah
toutes
ouais?
les choses.
Tu
J'ai
penses que
vu une
ça, c'est
fois.
vraiment l'un des plus gros challenges pour les couples mariés en 2023, c'est quelque part la tentation et les réseaux sociaux, enfin les sites de rencontres. T'allais donner un exemple, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Non, une fois, j'avais été à Paris il y a quelques années de ça, et j'étais dans le métro et je regardais par la fenêtre, dans mes pensées, et j'ai vu une pub spécialement pour les gens mariés, pour qu'ils puissent aller voir ailleurs. Je me suis dit, ah ouais, on est dans cette. Genre, ah ouais, ça c'est plus fixé sur les célibataires en fait maintenant, c'est genre tout le monde. Genre, t'es marié, on s'en fout, va voir ailleurs. C'est bizarre quand même. Mais au final, la tentation, elle n'est pas que sur le fait qu'il y ait des sites de rencontres. C'est que tout est sujet à t'éloigner d'Allah, en fait. C'est ça le problème. Il y a de
Merci,
ça
c'est
partout.
ça en fait. C'est que là, c'est pas que la tentation de la chair, même si c'en est une, et que ben, la chair est faible, comme on dit. Donc effectivement, c'est la tentation qu'on ressent le plus quelque part, et qui est comme le, enfin, je sais pas si c'est la plus présente, mais je suis complètement d'accord avec toi, et c'est hyper important de le préciser. Cette tentation, c'est aussi la tentation de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'éloigner Allah de son mariage. La tentation, elle est là aussi, parce
C'est
qu'encore
ça?
une fois, moi, je trouve que sur Instagram, cette tentation, c'est aussi la tentation de croire que une union, il suffit juste d'être deux partenaires pour que ça se passe bien. Oui, quand une fois, moi, quand j'étais encore dans les réseaux, j'en pouvais plus de « je souhaite un joyeux anniversaire à mon meilleur ami, à mon meilleur amant, à mon meilleur je sais pas quoi ». Et toi, enfin, tu vois, on n'est pas sur des personnes qui sont forcément croyantes. Et toi, en fait, bah, comme tu es un être humain et que tu as besoin d'amour, tu peux être dans ce truc de « waouh, ça a l'air trop bien ce qu'ils vivent ». Pourtant, ils sont pas musulmans. Mais tu peux pas, enfin, à titre personnel, je vais parler que pour moi, je peux pas nier qu'il y a eu des moments dans ma vie où ça me faisait pas envie. Parce que, ben, ils ont l'air heureux, en fait. Et en fait, eh ben, une partie de toi, en tant qu'être humain, veut ce bonheur-là. Toi aussi, tu vas être heureux. Toi aussi, tu veux aimer, être aimé, etc. Et quelque part, ça, c'est la tentation de t'éloigner de tes principes religieux. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire, mais c'est une réalité. Le fait de banaliser des relations hors mariage, en plus des relations qui ont l'air hyper cool, ben, en fait, ça a un impact sur toi en tant que célibataire et toi potentiellement en tant que marié, parce que peut-être que quand tu regardes ça, tu dis « mais attends, mais eux, ils ont l'air de vivre leur best life », alors qu'ils ne sont pas mariés et moi, je suis mariée, mon mariage, c'est difficile, on ne s'entend pas avec mon épouse ou avec mon époux, tu vois.
Bah, c'est exactement ça en fait, et j'étais en train de penser à un couple que je connaissais qui, en apparence sur les réseaux, ils étaient vraiment le couple idéal, genre complicité au maximum et tout. Et moi qui étais proche du coup de ma copine qui était l'épouse de ce couple, dans les coulisses, c'était pas du tout ça. Mais du coup, toi quand tu regardes ça sur les réseaux, tu te dis « ah, eux, c'est le couple idéal ». Et toi, limite, ça peut te faire des ouest-ouest en fait. Tu te dis « mais en fait, pourquoi nous, on n'est pas comme ça ? Pourquoi nous, on fait pas autant de trucs ? Pourquoi on rigole pas ? Pourquoi on le montre pas ?» Mais c'est pas ça en fait. Ça, ça te fait croire à des choses qui sont infondées. Demain, t'as plus de connexion internet, ton couple idéal sur Instagram, il n'existe plus. Mets ton couple à toi dans ta maison, bah il existera encore en fait. Tu vois, il faudra que tu continues à travailler, il faut arrêter d'idéaliser tout ça. C'est compliqué.
Non, mais c'est surtout hyper. Ouais, c'est hyper intéressant et je te remercie d'avoir apporté ton point de vue et ton témoignage parce qu'encore une fois, machallah, notre communauté elle est très vaste et c'est important. D'essayer en tout cas d'ouvrir la parole à tout le monde, même si d'un point de vue personnel, moi j'estime qu'il faut toujours faire attention à nos témoignages, que ce soit le tien ou le mien, dans le sens où on n'est que des êtres humains. Nous sommes faibles et nous ne sommes pas fiables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se dit des choses, peut-être que dans 5 ans on dira autre chose. Mais on demande à l'Aspratala que nos propos, en tout cas à l'heure actuelle, le satisfasse, lui convienne et qu'on n'a pas, on ne s'est pas éloigné de son message à lui. Est-ce que tu aurais un dernier message, Laura, à faire passer aux personnes qui nous écoutent, que ce soit des personnes qui souhaitent se marier jeunes, que ce soit des personnes des personnes qui sont déjà mariées, à qui tu souhaiterais faire passer un message, on t'écoute.
Alors déjà, ceux qui sont déjà mariés, félicitations. Non, en plus sérieusement, en fait, je pense que c'est pas qu'il y ait une question d'âge. Mais vraiment, en fait, que t'aies 20 ans, que tu te prépares à te marier, ou que tu sois en préparation, ou que tu sois jeune marié, ou que tu sois marié depuis 10, 20, 30 ans, peu importe. C'est important de placer Allah au milieu de tout, parce que c'est vraiment la seule solution qui est vivable et qui sera, pour laquelle on sera récompensé, en fait. C'est simple, on connaît la solution, et nous, on se laisse influencer par plein de choses qui nous font croire que la femme, elle doit faire ci, la femme, elle doit faire ça. Non, la femme, si elle veut réussir auprès d'Allah et obtenir sa satisfaction, on a une ligne de conduite à suivre. Quand on est marié, on a une ligne de conduite à suivre. En fait, c'est tout bête. On a juste à suivre les règles, tout simplement. Et plus tu te détournes de toutes tes tentations, c'est dur parce qu'elles sont partout, mais c'est toi et ton mental. Et c'est toi, en fait, si tu veux obtenir le paradis et rejoindre, Inch'Allah, ton époux, ta famille, t'as juste à suivre cette ligne de conduite, entre guillemets, bêtement. Et nous, on veut faire compliqué, on veut se compliquer la tâche et à tenter, à gratter un peu de plaisir éphémère de cette vie, mais c'est pas ça qui compte. Donc une fois que tu prends conscience de ça tous les jours, et c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui partage ta vie, qui te rappelle ça aussi tous les jours, je pense que c'est ça en fait le choix en fait. C'est quand tu te maries avec quelqu'un, tu dis « est-ce que cette personne, elle sera là pour me rappeler de toujours faire le meilleur pour Allah ?» C'est ça en fait, le seul critère que tu dois chercher. Peu importe qu'il soit beau, qu'il soit des origines que tu veux ou pas, qu'il soit riche. Ça, c'est que des détails après.
Ah, je te remercie beaucoup, Laura. Barakallahoufik pour ce dernier mot, parce que c'est un mot heavy, comme on dit, mashallah, qui était lourd de sens et de bonnes paroles. Vraiment, merci encore. Merci de ton témoignage. On demande à Aspatallah qu'il nous, encore une fois, qu'il nous agrée, qu'il agrée nos propos et qu'il protège l'ensemble des couples mariés de toute tentation et qu'il facilite le mariage à tous nos frères et sœurs filets qui désirent ardemment pouvoir bénéficier de ce cadeau dans cette vie-là, Inch'Allah.
Amine, faites l'écho de légiférer, ça va payer.
Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Laura.
Avec plaisir.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Zawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.